on va essayer de comprendre et de discerner quelque chose sur la passion que Dieu souhaite que l'on ait pour lui. On va voir ce que ça veut dire déjà. Je suis un peu écrasé par le sujet. Je suis un peu écrasé par le sujet parce que je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Et surtout parce qu'il y a des enjeux qui sont derrière. Des enjeux énormes pour notre vie perso. Des enjeux énormes pour notre vie aussi collective, pour l'Église. Parce que l'Église, en fait, elle est faite de chacun d'entre nous. Nous sommes tous, ici, des pierres vivantes. Ces pierres vivantes, qui les unes sur les autres, constituent cette Église. Et ce n'est pas notre Église. Ce n'est pas l'Église de tel pasteur, ou de tel cercle de communion, comme on dit, ou de telle congrégation. C'est l'Église du grand Dieu. Et qu'est-ce qu'on va regarder un peu ce soir. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai des versets comme ça qui me titillent profondément. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifions Dieu, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19. Comment vous le vivez, ce verset? Sincèrement, j'ai promis à mes filles de ne pas les interroger ce soir, sinon elles me séquestraient. Mais comment vous vivez ce verset? Parce que franchement, on le connaît, hein, mais vous mesurez les mots. Est-ce qu'on aime ne pas s'appartenir? Vous aimez appartenir à quelqu'un, vous? Ça peut rappeler des sombres souvenirs. L'autre jour, j'ai croisé quelqu'un qui a été brisé dans son travail. Il a été brisé par son patron. Mais brisé. Mais, hein, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu, je ne l'ai pas reconnu. Ralenti. Ses facultés physiques semblaient être là. Il était cassé, mais vraiment cassé. Parce que son patron a mis la main sur lui. Il avait l'impression de ne plus s'appartenir. C'est la même chose dont on parle. Comment vit-on ce verset? Parce que si on le vit comme je viens de le dire, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Comment vit-on ce verset? Moi, il me titille, pour être très franc. Titi, ça veut dire qu'il me chatouille. Que je ne suis pas forcément toujours 100% paisible avec ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des morceaux qui restent chez moi et d'autres à Dieu? Rien. Vous ne vous appartenez pas. Les mots sont clairs, sont simples. Comment on le vit, ça, tous les jours? C'est quoi le but de ma vie? Est-ce que le but de ma vie, c'est de réussir mes études et qu'aucun parent me trucide, hein. Je ne suis pas en train de pousser vos enfants à ne pas faire des études. Je dis juste, je repositionne toutes les choses. Est-ce que le but de la vie, c'est de ne pas réussir les études? C'est de réussir les études, pardon. Est-ce que le but de la vie, c'est de se marier? Je ne sais pas moi, est-ce que le but de la vie, c'est de faire du sport, de la musique? Est-ce que le but de la vie, c'est de construire une famille? Est-ce que le but de la vie, c'est d'aller à l'église? D'être investi dans des activités, quelles qu'elles soient, même chrétiennes? C'est quoi le but de la vie? Glorifier donc Dieu. On va voir ce soir, on va survoler plein de choses, malheureusement. Mais on va voir ce soir que Dieu, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est se glorifier et être glorifié. Et il souhaite que chacun d'entre nous ici, nous le glorifions. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On le glorifie dans quoi? Simplement en chantant des cantiques? Simplement en ayant des pensées qui sont des bonnes pensées vis-à-vis de Dieu? Non. Aussi dans votre corps. Dans votre corps. Dans votre esprit. C'est quoi la réalité dans ta vie de ce verset? Une des choses qui est marquée dans ce verset, c'est de glorifier Dieu. Pour ceux qui étaient là aux 2 réunions précédentes, la première réunion, elle était sur la passion de Dieu, la passion de Dieu le Père, la passion de Dieu le Fils, et la passion de Dieu le Saint-Esprit. Et puis on a pu mesurer un peu la grandeur de ce Dieu. On va continuer à le mesurer ce soir un peu plus. Et la grandeur de ce Dieu, c'est ce Dieu qui est grand, qui est immense, qui lui-même nous demande de le glorifier. Alors ça ne doit pas peser sur nos épaules. On va voir que ça ne doit pas peser sur nos épaules. Mais par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne veut pas une petite vie spirituelle. Je suis désolé de le dire, mais ça, c'est un de mes sujets, je ne sais pas combien, de prédilection. Dieu, il n'attend pas de nous qu'on rase les murs. Dieu, il ne veut pas qu'on rase les murs. Dieu, il ne veut pas simplement qu'on se contente d'acheter notre billet pour le ciel et puis de s'asseoir régulièrement le dimanche sur un banc pour le louer. Je le dis de manière brutale, mais Dieu ne veut pas ça. Ça, il ne le veut pas. Il ne s'en contente pas. Mais vraiment, il ne s'en contente pas. Ça le met en colère. Vous savez ce qu'il a dit au peuple d'Israël? Puisque vous m'avez servi sans joie, vous allez servir les autres. Ils avaient servi, hein, le peuple d'Israël. C'était, il a donné ça dans Deutéronome. On le voit quand il donne la loi. Si vous me servez sans joie, vous allez servir les autres. Donc le problème n'était pas de le servir, était de le servir avec joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre, de faire de ses délices, ce qu'on va voir ce soir, l'Éternel. Il ne veut pas d'une vie où on vient et on fait les choses par principe, par habitude ou par mauvaise conscience. Il ne veut pas de ça. Il veut, il rêve grand à la taille de sa grandeur. Et il rêve grand pour chacun d'entre nous et pour nous collectivement à la taille de sa grandeur. Il nous le dit là, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. C'est clair. Et si on fait la liste des passages où il est marqué « Glorifiez-moi dans la parole », Jonathan Edwards, qui était un pasteur puritain du 18e siècle, début du 18e, Jonathan Edwards, il a fait un bouquin, il y a 70 pages de versets côte à côte, écrits tout petits, où à chaque fois Dieu dit qu'on le glorifie ou qu'il aime être glorifié. Vous prenez la parole de Dieu, elle est traversée par cette notion-là. Elle est traversée par ça. Glorifier Dieu, glorifier Dieu. Ça veut dire quoi? On va voir ça juste après. J'ai posé la question. Alors moi j'ai un problème, c'est que je fais des choses et puis je ne m'y suis pas du tout en général. Vous voyez bien? Pourquoi Dieu t'a créé? Je vous propose cette phrase. Dieu t'a créé, m'a créé, dans le but de me faire vivre une passion unique, qui inclut et transforme tout, la passion de glorifier Dieu en jouissant de son excellence divine et en faisant la preuve dans tous les domaines de mon existence. Dieu m'a créé. C'est pas un verset, hein. C'est par rapport à tous les versets qu'on peut étudier là-dessus. Dieu m'a créé dans le but de me faire vivre une passion unique qui inclut et transforme tout, la passion de glorifier Dieu en jouissant de son excellence divine et en faisant la preuve dans tous les domaines de mon existence. Et vous savez pourquoi on parle de passion? Si un jour vous êtes sur le plateau et il fait 15 jours de pluie en continu, ça peut arriver. Prenez votre Bible et notez tous les versets où il est parlé de passion, de délice, de joie, de se réjouir. Je ne sais pas s'il y en a autant que de se glorifier des versets, mais ça ne doit pas être très très loin. Ça traverse toute la parole, depuis le commencement jusqu'à la fin, d'être heureux, d'être joyeux, de se réjouir. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Moi, des fois, je me dis, quand on est en culte, dans le culte, et qu'on chante des cantiques où il est dit « joie, joie » par exemple, ou d'autres. Bon, « joie, joie », on ne chante pas trop dans nos cultes. Mais, et que je regarde nos têtes, moi je me souviens avoir dit à mon père, mais papa, pourquoi on fait la tête comme ça? Il m'avait dit « c'est une joie intérieure ». Avec un sourire. Non mais sérieux, la bouche elle parle de quoi? De ce qui nous occupe où?
Cœur.
Dans le cœur. Et la bouche elle est sur le visage. Et le sourire il est marqué comment? Par la bouche. Entre autres. Alors les médecins vous diront qu'il y a des tas de muscles autour. Hein, donc là, c'est plein d'autres choses qui jouent. Moi je suis pas médecin. Mais se réjouir, bien sûr que c'est quelque chose d'intérieur. Je suis pas en train de dire pour exulter, danser, lever les bras, rigoler. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais les visages réjouis, ça joue. Alors, on va voir quel est le plus grand commandement, une définition de la passion, quel est l'objet de ta passion, et pourquoi la passion. Quel est le plus grand... Quel est le plus grand des commandements. On va se marquer là. Et qui c'est qui nous dit ça? C'est lui qui nous dit ça. C'est Jésus. Et il nous le dit dans quelles circonstances? On peut lire dans Matthieu 22. Là, c'est Marc 12, mais c'est la même circonstance dans Matthieu 22. On peut lire à partir du verset 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Alors, les pharisiens, c'était la caste religieuse. Et les sadducéens, c'était la caste économique et politique des juifs, on va dire comme ça. Ils étaient quasiment gnostiques, ils avaient fait beaucoup de réductions sur le nombre des commandements, on va voir après. Et les deux se détestaient, mais sérieusement, ils se détestaient. Les sadducéens et les pharisiens, ils ne s'aimaient pas du tout. Et là, ils ont trouvé à s'associer quand même. Je fais juste une parenthèse. C'est quand même curieux ça, quand on a un ennemi commun, on trouve le moyen de s'entendre. J'espère que ça n'arrive pas dans nos églises. Je veux dire avec ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Marc rajoute, « Et de toute ta force. » C'est le premier commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi et des prophètes. Alors, juste pour illustrer un peu, les docteurs de la loi, ils avaient, du temps du Seigneur, ils avaient, même avant, ils avaient découpé, donc ils avaient pour eux, ils avaient déclaré qu'il existait 248 préceptes affirmatifs, c'est-à-dire des « je fais ». Et pour eux, c'était 248 parce que ça correspondait au nombre de membres dans le corps humain. Alors autant dire que ce n'est pas médical non plus, mais pour eux, c'était comme ça. Et ils avaient 365 préceptes négatifs, autant que de jours de l'année, et le total faisait 613. Et les Juifs, ils aimaient beaucoup les chiffres. Je me suis dit, des fois, chez nous aussi. Et ils aimaient beaucoup les chiffres, et 613, ça correspondait au nombre de lettres en hébreu du décalogue. Et ils avaient donc 613. Pareil, si vous prenez le texte en hébreu partant de pluie, vous pouvez aussi compter les lettres. Donc vous verrez qu'il y en a 613. Et donc, il y avait un paquet de commandements. 613. Donc on peut comprendre. C'est ce docteur de la loi qui dit, j'en ai 613. Est-ce qu'il y en a un qui est le centre? Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que les autres? Et la réponse du Seigneur, on l'a lu. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton prochain. Tu t'aimeras toi-même. Un trépied. Il y en a un qui est plus grand. Il y en a un qui est avant. C'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais le Seigneur dit, il y en a un qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Premièrement, on peut retenir de ça qu'il nous donne une grosse responsabilité et il la fixe. Il nous donne une grosse responsabilité. Le fait d'aimer Dieu, c'est le commandement qu'il cite en premier, et le deuxième qui lui est semblable, on l'a dit, tu aimeras ton prochain. Si ces commandements sont les plus importants, si on les transgresse, comment ça s'appelle? Et dans la liste de nos péchés, il n'apparaît pas souvent. Par contre, il y en a d'autres qui apparaissent très souvent, ceux qui sont visibles en général. Dans la Bible, le cœur dans la Bible, c'est le centre de l'être. C'est pas forcément là où il y a les affections dans la Bible. Souvent, c'est là où se prennent les décisions. Les affections, elles sont plus liées à l'âme dans la Bible. C'est le côté vivant, passionné, affectif, l'âme, souvent dans la parole de Dieu. Et puis les pensées, c'est plutôt le côté de la réflexion intellectuelle, la mémoire, le souvenir. Quand Marc rajoute de toutes ses forces, ça parle d'activité, ça parle d'agir, ça parle de maintenir, ça parle de faire des efforts. Bon, en gros, il n'y a pas grand-chose qui est laissé de côté. Tu dois décider d'aimer. Ça doit être quelque chose qui est très fort dans ton cœur. Ça doit dois savoir, que tu dois cultiver, que tu dois travailler. Travailler au sens de la connaissance. La connaissance dans la parole, c'est toujours un mot qui dit que tu apprends, mais que tu es, que c'est à l'intérieur, que ça travaille à l'intérieur. Et puis, on sait très bien, hein, pour ceux qui sont mariés, que l'amour, il y a les montagnes et il y a les vallées, pour parler gentiment. Mais l'amour pour Dieu, il y a aussi des montagnes et des vallées. Et donc, il y a besoin de s'y atteler avec force. Ce qu'on peut retenir de cela, c'est que aimer Dieu précède toujours d'aimer son prochain. Mais par contre, on peut aussi retenir que les deux sont indissociables. J'aimerais juste lire 1 Jean 4, verset 10. 20. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu alors qu'il déteste son frère », c'est quoi ? C'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère, sa sœur. C'est quoi ce sport que nous avons parfois dans nos églises ? Sous couvert de spiritualité, sous couvert d'alerter, je le dis, je suis vraiment étreint, d'enfoncer, de taper, de critiquer, souvent dans le dos. Vous voyez ce que je viens de dire ? Vous savez ce que le Seigneur Jésus a dit ? De quoi parle-t-on ? On parle en fait, quand moi je critique quelqu'un, quand moi j'enfonce quelqu'un, quand moi je n'aime pas un frère ou une sœur, en fait je parle de mon amour de Dieu, et il n'est pas glorieux, il est glorifiant. Ça je voulais quand même le préciser. Et en fait, ces choses-là, elles ne doivent pas nous promettre une chape de plomb ou promettre quelque chose de lourd, au contraire. Parce qu'il a commencé, le Seigneur, par « Tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça veut dire qu'il faut aimer trois choses, vraiment, pas autre chose, trois personnes. Vraiment. Aimer Dieu, aimer son prochain, et s'aimer. S'aimer, on a du mal. On a du mal déjà à entendre ça. Parce qu'on a toujours peur qu'en s'aimant, on se mette en avant. On a toujours peur qu'en s'aimant, on est de la gloriole, on est de la propre gloire, on est de l'orgueil. Mais le Seigneur nous dit dans la parole, via l'apôtre Paul, qu'on peut être fier, mais pas fier de nous. Fier de l'action de Dieu en nous. Fier de l'action de Dieu partout dans le monde. On peut être fier, c'est les termes qui sont employés. Quand l'apôtre il parle de, dans Romains 8, nous sommes victorieux, le terme en grec qu'il emploie pour victorieux, c'est hyper victorieux. C'est genre, t'es un athlète. Tu fais le 100 mètres, tu l'as gagné, mais tu continues à courir et tu fais le 400 mètres et tu les regagnes une deuxième fois. C'est genre tu commences un match de foot, t'es pas à 0-0, t'es déjà à 1000-0. C'est genre tu veux, même si tu voulais pas, t'y arriverais pas, tellement on est hyper victorieux en Christ. Ce que je suis en train de dire, c'est s'aimer soi-même. C'est pas s'aimer parce que je suis fort en sport, parce que, je sais pas moi, parce que je dors pas beaucoup, parce que... plein de bonnes raisons, on en a tous. Non, c'est s'aimer, c'est aimer ce que Dieu a fait en nous. Et quand on sait ce qu'il a fait, ce qu'il en a coûté, c'est pas du propre orgueil qui se développe normalement. Et c'est ça, s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, ça permet d'aimer les autres. Ça aide. Et aimer son prochain, c'est pas non plus une option. Et on va voir à la fin que aimer son prochain, ça... Ça nous permet d'avancer, même quand c'est difficile, même quand le frère ou la sœur me tape sur le système. Il y en a un tous dans nos églises, et peut-être que moi je le suis, c'est vraiment bien. On en a un tous dans nos églises, mais on doit aimer notre prochain. C'est un commandement qui est semblable à celui d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toutes ses forces. Alors, aimer Dieu, dans Deutéronome, on le retrouve à plein d'endroits. C'est quelque chose de vraiment central. Et juste, j'ai retenu très vite quelques points. Premièrement, aimer Dieu, c'est reconnaître Jésus comme envoyé de Dieu. C'est ce qu'on voit dans Jean 8, 42. Quelqu'un qui dit, par exemple, qu'il aime Dieu, mais qu'il ne sait pas pour Jésus, mais il n'aime pas Dieu. Aimer Dieu, c'est on l'a vu avec Bertrand, c'est garder ses commandements. Il nous l'a expliqué. Il nous a expliqué que garder ses commandements, c'est cette parole, sa parole, la parole de Dieu qui, dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies, c'est-à-dire dans nos corps, dans notre esprit, dans ce que je pense, dans ce que je fais, dans ce que je dis, ben, elle agit. Et elle agit comme elle doit agir. Et chacun de nous, on sait où elle doit agir. Ça, c'est aimer Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans Jean 14. Aimer Dieu, on a vu aussi que ça ne se limite pas à une activité extérieure. Moi, je travaille avec pas mal de chrétiens sur différentes assos. Et il n'y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un qui est jour et nuit au fourneau. Et je voyais que c'était compliqué, que c'était difficile. Je le voyais vraiment abattu. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a dit, je me suis desséché. J'ai servi. Mais j'ai négligé l'intimité avec Dieu. Alors de l'extérieur, on pouvait croire que tout allait bien. De l'extérieur, on pouvait croire qu'il était... Mais il m'a dit, mais en fait, j'ai l'impression d'être vide, d'être sec. J'ai l'impression de ne plus aimer Dieu. Je l'entends plus. Je l'entends plus parler. Aimer Dieu, c'est pas quelque chose que d'extérieur. Ça doit se traduire, bien sûr, par les actions. Aimer, on sait ce que c'est, aimer. Aimer, allez, ça fait toujours du bien de relire ce qu'on sait par cœur. On lit souvent au mariage. Le chapitre 13, si je parle des langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, c'est curieux ça, hein, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Après, le Seigneur précise, Paul précise ce que c'est que l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère toujours tout, et il supporte tout. C'est un beau programme, surtout concernant nos prochains, nous-mêmes. J'ai noté aussi que aimer Dieu ne se fonde pas nécessairement sur une expérience. Actuellement, on aime bien ça. On aime bien vivre des expériences. Des expériences où il y a beaucoup d'extraordinaire. Et je ne les juge pas du tout. Par contre, c'est ce qu'on veut y trouver qui peut être problématique. Et surtout, ça peut porter un biais qui est de dire, si moi je n'arrive pas à vivre ces expériences-là, c'est que je n'aime pas suffisamment Dieu ou que Dieu ne m'aime pas suffisamment. L'amour... Ce n'est pas que, je l'ai dit, ne se fonde pas nécessairement sur une expérience extraordinaire. Il y a des gens qui ont été bénis par cela et c'est génial. Mais ça, 1 Pierre 1, 8, vous fait comprendre que ça reste exceptionnel. Et mais Dieu va connaître les variations, on l'a dit. C'est pour ça que Paul aux Philippiens les engage à travailler cela. Et Jude dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Un exercice, ce n'est pas une idée naturelle d'aimer Dieu depuis son cœur. Et puis, je voudrais juste prendre 2 minutes sur un sujet. Aimer Dieu est en compétition avec d'autres amours. Aimer Dieu est en compétition avec d'autres amours. Vous savez, ce passage-là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est tiré de Deutéronome 6. Dans Marc, le Seigneur précise, c'est Marie-Do, je ne veux pas tromper le truc. Le Seigneur précise, voici le premier, verset 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu et l'unique Seigneur que tu aimeras, etc. Pourquoi il nous dit écoute Israël? Pourquoi il dit à Israël écoute Israël? Et pourquoi du coup il nous dit à nous écoute Israël? Et pourquoi il précise derrière je suis l'unique Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu? Ben, parce qu'on a une grosse capacité à avoir d'autres dieux. Pas très compliqué. Moi j'aime bien cet exemple de Salomon, un roi 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'est sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et les parfums. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père. Salomon aimait l'Éternel. Moi, je rêverais que mes filles puissent dire de moi, Cédric, papa, ils disent pas Cédric, papa, aimait l'Éternel. C'est beau, ça. Chacun, on aimerait bien qu'on dise de nous qu'on aime l'Éternel. Et Salomon, il avait un cœur pour Dieu, pour l'Éternel. Il avait un cœur tout entier pour Dieu et pour l'Éternel. Et puis, si on tourne quelques pages et qu'on va dans 1 Roi 11, et Salomon, il a demandé la sagesse, il a eu la sagesse. Et il a eu des bénédictions à n'en plus finir. Et dans 1 Roi 11, au verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Verset 3, il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme il avait fait son père David. Alors souvent, on parle à la jeunesse, mais là, je parle aux personnes plus âgées. C'est pas arrivé à un jeune, ça. Et c'est pas arrivé d'un seul coup. C'est arrivé petit à petit. Et au début, personne s'en est aperçu. Il continuait à adorer au temple. Il continuait à offrir ses sacrifices. Il continuait à faire ses prières. Et petit à petit, les choses sont rentrées dans son cœur. Et que nous dit la parole, il a eu d'autres dieux. Nous, souvent, pour d'autres dieux, on parle de choses qui sont... le sexe, l'alcool, la drogue, la musique, les chanteurs, etc. Les idoles, en fait, on en a plein. On va très vite taper sur ceux qui en ont en statut. Mais franchement, qui est-ce que j'adore? C'est simple à savoir qui est-ce que j'adore. Par quoi est occupé mon cœur? Des pensées, des forces, mon âme. Par quoi sont-elles occupées? Par l'argent? L'homme a deux occupations. Construire et gérer ce qu'il a construit. Il se tue à la tâche pour construire et après il se tue à la tâche pour gérer ce qu'il a construit. Et c'est comme ça qu'on développe d'autres dieux. Et ces dieux, ils peuvent porter des noms vraiment sympas. La famille, je vais peut-être vous choquer, même l'église. Parce que si l'Église est devenue une organisation que je cultive, sur laquelle je suis attaché, auquel je pense tout le temps, à laquelle je consacre tout mon temps, et en tant qu'organisation, je parle pas de l'Église de Pierre Vivante, là, j'en ai fait un Dieu. Le sport, enfin, on les connaît tous, nos dieux, on les connaît tous. Et le Seigneur, quand il rappelle ce commandement, il commence par préciser, tu n'auras pas d'autre Dieu. Qu'est-ce qu'il dira à Éphèse? Quand il encourage Timothée au début d'Éphèse, il lui dit, je crois, Éphésiens chapitre 1, non, quand il parle à Timothée, que l'objectif, c'est d'aimer l'impure, etc. C'est plus ce qu'il dit. Pas moi. Et à la fin, qu'est-ce qu'il reproche à Éphèse? J'ai contre toi, tu as gardé la sainte doctrine, etc. J'ai contre toi. Que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que vous avez envie que le Seigneur ait quelque chose contre vous? Je ne sais pas plus faire peur que je dis ça. Je ne suis pas en train de faire un prêche de peur, hein, ce n'est pas le sujet. Je vraiment, ce n'est pas le sujet. Mais moi, si on y plus d'entendre ce qui est dit à une autre église, je vais tout vomir. Alors, une définition de la passion. J'ai mis cette photo de ce petit garçon, parce que pour moi, elle représente ça. Mais c'est pour moi. La passion, ce que je vous propose, c'est aimer avec un enthousiasme intense. Ça, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Aimer, ça faisait un moment que vous le savez, le vivre, on a vu que le programme, il va me prendre une bonne partie de ma vie, mais avec un enthousiasme intense. Celui qui m'a fait découvrir ça, c'est un auteur que vous connaissez tous, je pense, c'est Piper. On a peur, il peut vous énerver par certains côtés, sûrement, mais Piper, il a remis en avant la nécessité de servir avec joie. Il a remis en avant que la joie, ce n'était pas la conséquence d'un devoir, mais qu'on avait le devoir d'être, de servir avec joie. Que la joie faisait servir, faisait partie du devoir vis-à-vis de Dieu. Et ça, pour moi, ça a été une découverte. Quand il est dit, quand l'Éternel nous dit, fais de l'Éternel des délices. Qui aime bien manger comme moi ici? Oui, les autres, je sais. Donc, quand on aime bien manger, et que, moi je viens du sud-ouest, je vous assure qu'un foie gras pollé, on peut dégoûter certains, mais moi je peux faire des kilomètres. Voilà. Et c'est un délice. C'est un délice. Ça veut dire que même là, quand j'en parle, je salive. Donc, ce que je veux dire par là, c'est une très faible image de ce que l'Éternel veut, mais l'Éternel dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est pas parce que tu l'auras bien servi, alors tu vas ressentir des choses bonnes, des délices, des tas de trucs. Non. Fais de l'Éternel ton délice, que je disais tout à l'heure dans Deutéronome. Si vous ne me servez pas avec joie, vous servirez les nations. La joie, mais servir les délices, le plaisir, prendre du plaisir en Dieu. Et nous, en fait, on a un problème avec ça. Alors ça date d'il y a plusieurs siècles. Mais on a un problème avec ça. Pourquoi ? Parce qu'on nous a appris que le sentiment, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est la chair. Et on dit en général, la chair. Comme ça. D'accord ? Mais Dieu nous a créés avec les sentiments. Les sentiments, ils ont été créés. Le fait de ressentir des choses, ils ont été créés. Le Seigneur, il ressentait des choses. Dieu, le Père, ressent des choses. Le Saint-Esprit, qui est une personne, ressent des choses. On peut l'attrister. Attrister. C'est triste. Enfin, c'est triste. C'est pas un mot. C'est pas une image. Quand le Seigneur pleure, ce n'est pas une image. Il pleure. Quand il est en colère, ce n'est pas une image. Et ceux qui étaient dans le temple, ils s'en souviennent. Les sentiments, Dieu nous a créés avec des sentiments. Les sentiments, alors moi j'ai même entendu le sentiment. En deux mots, histoire de bien appuyer le truc. Alors, je comprends pourquoi on le dit. Si tu te bases sur tes sentiments pour savoir si tu es sauvé, mais tu vas te planter. Parce que des fois, ça va bien, et des fois, ça va pas. Et si quand ça va pas, tu te bases là-dessus, ben, forcément, tu vas douter. On est d'accord, mais ce n'est pas une raison pour rejeter les sentiments et ne pas les écouter. Mais la parole est truffée de versets qui nous expliquent qu'il faut ressentir des choses, qu'il faut se réjouir. Dans les Philippiens, Paul dit aux Philippiens, réjouissez-vous même quand ça ne va pas. Il n'y a pas à prendre ça. Mais il sait quand même se réjouir. Et se réjouir, ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Ce n'est pas une image éthérée comme ça. Non, se réjouir, c'est se réjouir. Comme quand tu te réjouis quand j'ai mangé un foie gras. La comparaison, on est d'accord, et c'est juste pour l'image de ce réjouir. Et donc, si on continue sur la définition de la passion, j'ai écrit un truc, je préfère le lire parce que ça sera. Aimer Dieu, c'est se focaliser sur lui et sur lui seul. Oui, parce que on dit toujours qu'il faut aimer Dieu, mais ça veut dire quoi aimer Dieu? Parce que quand on lit la définition d'un Corinthiens 13, l'amour dans un Corinthiens 13, agapé, c'est des actions, c'est pas des sentiments. Mais quand on lit d'autres formes d'amour, parce que nous en français on a une langue hyper pauvre, on le sait tous, vous l'avez entendu 100 fois. Donc il y a d'autres mots pour parler des sentiments, on parle aussi d'amour. Le agapé, celui qu'on présente, ah oui, ça aussi, il faut pas que je me parle. Mais ça c'est un truc qui aussi, non je vais pas dire qu'il m'énerve, parce que, mais c'est un truc aussi
Voilà, on dit toujours, l'amour absolu, c'est agapé. Mais c'est fou. C'est une forme d'amour. Mais même Dieu, il dit vis-à-vis de son fils filio. Regardez bien, cherchez. Donc, nous, des fois, on a une théologie qui est quand même un peu particulière. Mais juste qu'elle correspond qu'à un moment donné, il y a des personnes, comme moi, on va les citer, ici, Calvin ou l'autre, ils ont dit, ben, le sentiment, ça pose un problème. Mais non, ça ne pose pas de problème. Ça dépend ce qu'on en fait, évidemment. Et comment on les utilise. Et, ben, mais Dieu nous a créés avec. Et il veut qu'on les utilise. Il nous le demande. Si vous ne me servez pas avec joie, si vous, éternel, faites de moi tes délices. Aimer Dieu, c'est se focaliser sur lui seul. C'est le désirer, le chérir, se complaire en lui, se délecter de qui il est et être profondément satisfait de la communion que nous avons avec lui. Aimer Dieu, c'est accorder une grande valeur, un grand prix à Dieu. Aimer Dieu, c'est l'admirer, c'est le révéler bien au-delà de tout ce qui peut exister. Être passionné de Dieu, c'est avoir un enthousiasme intense pour Dieu, un intérêt profond pour lui. Et synonyme de la passion, exaltation, adoration, zèle, ferveur, désir, la faim d'eux, la soif d'eux, l'adoration, l'envie, la conviction, le besoin. Lorsque nous disons que nous avons la passion de Dieu, nous disons que nous désirons Dieu, que nous avons faim et soif de lui, que nous avons un besoin irrésistible de lui. Nous disons que nous avons du zèle et de l'ardeur, de la ferveur et de l'exaltation, et bien sûr de l'amour pour lui. N'est-ce pas ? Es-tu passionné de Dieu ? Dieu, il veut qu'on soit passionné de lui. Et c'est une grande chose. C'est une grande chose. C'est une grande chose. Il est décidé, il est voulu que chacun d'entre nous le voit. On peut lire dans les Éphésiens que même avant la création du monde, on va lire. Éphésiens 1. Moi, ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Bon, déjà, toute bénédiction. Alors, au singulier, mais toute. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Et oui. Avant que le monde, l'univers fût créé, il t'avait choisi. Et chacun d'entre nous ici, c'est pareil. Chacun d'entre nous ici, avant que l'univers ait été créé, tu as été choisi. On le sait ça, on l'a entendu 100 fois. Donc, franchement, prenez 30 secondes dans vos cœurs pour dire, tu m'as choisi avant l'univers. Avant que tu crées l'univers. J'ai été choisi avant que l'univers ait été créé. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on représente dans l'univers? On le voit juste après. Il n'y a même pas de mots pour exprimer ce qu'on est dans l'univers. Même rien du tout, c'est encore trop grand. En termes de taille, en termes d'importance. Et j'ai été choisi pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, et ça c'est s'aimer soi-même. Dans son amour, parce que oui, j'espère qu'on a tous conscience ici, ça aussi on a du mal des fois, qu'on est des rois et des reines. Mais c'est pas moi qui le dis. Et c'est pas au futur, hein, c'est présent. On est tous des rois, on est tous des reines. Et des sacrificateurs. Moi j'aime bien. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Pourquoi ? Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Et Dieu nous le précise, parce qu'on pourrait avoir des doutes sur le sujet. Et je suis sérieux, parce que Dieu, c'est l'être le plus sage, et enfin, on ne peut même pas dire comme ça, c'est la sagesse incarnée, c'est l'intelligence incarnée, enfin, je ne sais pas comment le dire. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, là, il nous parle. L'évangile qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. On l'a vu, ça, hier, qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je ne sais pas si on a encore des doutes sur le fait que notre vie doit glorifier Dieu et que notre destinée est de glorifier Dieu. Et rien qu'à la lecture de ce passage, j'espère qu'on l'a vu. J'ai plus de retard, mais on va chanter, on se met debout pour chanter le cantique. Que point net, 256 des requêtes. Galaxie, dont le système solaire fait partie, fait environ 100 000 années-lumière de diamètre. Soit à peu près 950 000, ça ne parle pas du tout, mais c'est juste pour vous dire la grandeur, millions de kilomètres. On a déjà identifié, on pense qu'il y a 350 milliards de galaxies présentes dans l'univers. Chaque galaxie fait plusieurs centaines de milliards d'étoiles. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? Demande le Saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre et les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul
ne manque.
350 milliards de galaxies. Allez, on va dire 200 milliards d'étoiles par galaxie. Ça, c'est une grande idée. Ça, c'est notre grand Dieu. Comment il est Dieu dans mon cœur? Je ne parle pas de l'amour. Comment je me représente? Souvent, on a une image de Dieu qui est... on a une image de Dieu comme un père toujours occupé, impatient,
parfois contrarié, s'agitant dans tous les sens, afin de trouver de l'aide pour mener à bien son projet. Comment j'imagine Dieu? Parce que si je veux, je vais essayer d'employer le mot imaginer. L'imaginer, il va falloir que je me penche là-dessus. Et Job nous dit dans le verset, au chapitre 26, au verset 14, que quand nous ressentons le poids de toute cette magnificence qui existe dans les cieux, nous avons à peine touché le bord de son vêtement. Voilà qui est notre Dieu. On a également parlé lundi de ce grand Dieu, celui qu'on vient de voir là. Qu'est-ce qu'il a décidé, ce grand Dieu? On vient de dire, ce grand Dieu, il a pensé à Héloïse avant la création de l'univers et à nous tous ici, à chacun d'entre nous. Celui qui se souvient de chacune, celui qui se souvient de chacune de ces étoiles. Et il se souvient de chacun d'entre nous. Il nous aime, chacun d'entre nous, et il nous aime tellement le rappeler que ce grand Dieu, s'est fait homme. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il s'est dépouillé lui-même. On sait de qui on parle, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Est-ce qu'on mesure l'amour de notre Dieu? Est-ce qu'on mesure cette grandeur de notre Dieu, cet amour prodigieusement immense, qu'il n'y a pas de mot pour le définir, il n'y a même pas de mesure pour cet amour-là? Est-ce qu'on mesure cela, et est-ce que ça ne développe pas notre passion pour Dieu? Si on a du mal à être passionné, repensons à ça. On le sait. Je voulais juste le redire ce soir. Et puis, Dieu est allé encore plus loin. Dieu est allé encore plus loin. Comme il s'est dit et qu'il nous connaît par cœur, il savait qu'il fallait nous aider. Et il a décidé d'habiter en chacun d'entre nous. On le sait tout ça. Je voulais juste le rappeler ce soir. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'agrandir notre connaissance. Ce qui compte, c'est que notre connaissance nous change. Ce qui compte, c'est qu'on sorte de là en disant, en étant toujours plus passionné pour Dieu. Alors, pourquoi c'est si important? Je vais accélérer très vite. On l'a vu. Tout cela est important et fondamental. Je n'ai pas le temps de le développer. Mais parce que ce qui est devant Dieu, est constamment devant Dieu, c'est sa gloire. Et ce qui est important pour Dieu, c'est sa gloire. Et ce qui est important pour Dieu, c'est que nous nous glorifions. Ce qui est important pour Dieu, c'est qu'il puisse se réjouir et que nous nous réjouissions en nous glorifiant. Ça mériterait une étude complète là-dessus. Je vais prendre plutôt un quart d'heure sur pourquoi la passion. Et on va lire ensemble 2 Corinthiens 3, verset 13 et verset 18. Alors, nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Paul, dans ses épîtres, n'a pas arrêté de répéter que pour glorifier Dieu, il faut que Christ grandisse en nous. Pour glorifier Dieu, il faut que nous ressemblions toujours plus à Christ. Il faut que nous reflétions toujours plus Christ. Et dans ce passage-là, ce qu'on vient de lire, il donne une clé pour cela. Premièrement, il y a une histoire de, on l'a bien lu, une histoire de voile. On va passer très vite là parce que... Et il y a une première question, mais je pense, je ne sais pas si elle concerne quelqu'un ici. Mais déjà, pour comprendre tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, et pour continuer à comprendre, il ne faut plus qu'il y ait ce voile sur le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, que Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur. Et j'espère que c'est le cas de tout le monde ici. Parce que sinon, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça va être un peu compliqué à comprendre. Mais deuxièmement, il dit quoi? Il dit que si tu es au bénéfice du sang de Christ, il ne faut pas que tu fasses comme si un voile te séparait. Ne fais pas comme si tu remettais un voile, toujours de Dieu. Le voile, il est enlevé, on l'a vu. Le voile, il n'est plus. Et on a vu que
Tu es en capacité alors de comprendre les Écritures, tu es également dans la liberté. Liberté de marcher, liberté de témoigner, liberté de t'approcher de Dieu, liberté de contempler. Moi, ça me fait penser à Matthieu 5, versets 15 à 16. Quand tu es une lampe et que le Seigneur trouve que mettre un voile dessus ou un seau, ça n'a pas beaucoup de sens. Moïse avait un voile sur le visage pour pas qu'on voit sa gloire et sa gloire passagère. Nous, on n'a pas besoin, plus besoin d'avoir un voile sur le visage. Au contraire, Dieu veut qu'on reflète Christ. Dieu veut qu'on reflète, qu'on le glorifie. On l'a lu. Il y a une histoire de contemplation. Alors ça, dans nos civilisations bien matérialistes, on a du mal à ça. Contempler, c'est quoi ? Le mot qui est employé ici pour contempler, c'est un mot qui est très très fort. C'est une expression grecque très forte. Ça ne signifie pas « je jette un coup d'œil et j'ai vu que c'était beau ». Ça signifie « je ne changerai pas ». C'est comme si tu disais, si tu décidais « je ne changerai pas de position avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant d'essayer d'accomplir la moindre chose, je dois me tenir dans la présence de Dieu ». C'est une intention soutenue et volontaire. Quand je contemple, je prends du temps. Quand je veux contempler ma femme ou mon mari, je prends du temps. Quand je contemple une œuvre d'art, je prends du temps. Si je visite un musée en courant, je ne dis pas que je contemple, ce n'est pas vrai. Ça veut dire que j'ai décidé de le faire. Ça veut dire que j'ouvre mon cœur. Ça veut dire que je prends du temps. Quand est-ce qu'on prend du temps pour contempler ? Alors, Bertrand parlait du culte du matin, c'en est un moment. Mais quand est-ce qu'on prend du temps pour contempler ? Parce qu'il y a un enjeu quand même. Il y a une histoire, il y a une histoire d'image. Comment nous avons été créés à l'image de Dieu ? Quelle est la seule chose sur terre qui a été créée à l'image de Dieu ? C'est nous et les hommes. Ça veut dire quoi, à l'image de Dieu ? Moi, j'ai essayé de creuser ça. Les mots, et ce que j'ai noté, c'est que les mots hébreux correspondant à l'image, selem et à ressemblance, qui sont utilisés dans les versets de Genèse, font tous deux référence à quelque chose qui est semblable, mais non identique à ce qu'il représente. C'est donc une image. Donc ça parle de quelque chose qui représente quelque chose d'autre. Dieu nous a créés pour le représenter sur la terre. Quand Dieu dit faisons l'homme pour qu'il soit à notre image, il dit faisons l'homme pour qu'il soit comme nous et qu'il nous représente. Cela veut dire que Dieu t'a créé pour le refléter comme le fait un miroir. Tu as été créé pour refléter Dieu comme le fait un miroir. C'est ça que ça veut dire. Alors, entre-temps, il s'est passé... vous connaissez tous l'histoire dans le jardin d'Éden, le péché, et l'image en a fait un coup. Mais Dieu, dans sa grâce, met en place, met en œuvre, permet de pouvoir restaurer cette image. Comment ? En contemplant. Est-ce qu'on mesure cet amour de Dieu et est-ce que ça ne nous fait pas, ça ne développe pas notre passion ? Et quand on contemple, eh bien, on est transformé. On est transformé. Et cette transformation, elle touche tous les aspects de notre vie. On peut le voir dans plein de passages de la parole. Si j'ai noté, ça touche notre intelligence et notre connaissance, dans Colossiens 3, qui tient à Romains 2. C'est ce qui te permet de faire prisonnier tes pensées pour qu'elles obéissent à Christ, la transformation de Corinthiens 10. Ça concerne également tes sentiments, quand l'apôtre Pierre parle des désirs, dans 1 Pierre 2. Ça concerne la volonté, dans Philippiens 2. Ça concerne ton corps physique, dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Le péché n'exerce plus sa domination sur ton corps, Romains 6. Il n'a plus part à l'inconduite, 1 Corinthiens 6. Et tu prends soin de ce corps, 1 Corinthiens 6. Et ce qui me rend toujours plus utile et capable d'accomplir la volonté de Dieu. J'avais plein de choses à dire, mais c'est l'heure, malheureusement. Ce que je voulais juste dire là-dessus, ce qu'il faut retenir, c'est que pour être transformé, l'image de Dieu, de glorifier. Parce que transformer l'image de Dieu, ça veut dire que quand on me voit, on voit Christ. Oui, je sais, c'est évident. Mais c'est ça qu'on doit tendre. Et pour y arriver, il faut contempler. Alors j'avais déjà développé une fois ces quelques pistes. Je vais les évoquer très rapidement. C'est quoi le point commun entre toutes ces images ? Ouais, c'est de la pierre. Et c'est de la pierre qui est comment ? Qui a été transformée. Mais la première, elle a été transformée comment ? Par l'eau. La deuxième, elle a été transformée comment ? Par le vent. Et la troisième, elle a été transformée comment ? Par l'homme.
L'eau dans la parole, c'est l'image de quoi? Oui, mais l'eau dans la parole, c'est l'image de quoi? De la parole. Cette épée aiguë à deux tranchants. Et puis aussi, Jacques, il nous dit, dans Jacques 1, verset 22-23, il nous dit, je vais lire, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Il y a une histoire de miroir encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un caillou brut, que je le mets déjà sans contact de l'eau, sans contact de l'air, sans contact de l'homme, je reviens le chercher 1000 ans après, c'est impossible, mais je reviens le chercher 1000 ans après, il n'aura pas bougé. Il n'aura pas changé, il n'aura pas évolué, il n'aura pas modifié, il ne sera pas modifié. Mais pareil, si je le mets dans ma baignoire, ce caillou, et que je reviens 1000 ans après, on peut que ça soit étanche, eh bien, il n'aura toujours pas bougé non plus. Il faut que l'eau soit en mouvement pour pouvoir travailler le caillou. C'est pareil dans nos vies. Si je connais la parole, mais que je ne cherche pas à l'appliquer, à la mettre en œuvre, ça ne sert à rien. Et nous, on est souvent les champions du monde par rapport à ça. On connaît les vérités, mais dans notre vie pratique, que ce soit individuelle ou d'église, on ne la met pas en pratique. Et après, on s'étonne qu'il n'y a pas de fruit. La parole. Le vent, ça parle de quoi? Dans la parole. On a lu. Qu'est-ce qu'on a lu dans 2 Corinthiens 3, 18? On a lu dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui s'envoient sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Par quoi? Par l'Esprit du Seigneur. Cet esprit qui est en nous, qui nous remplit. Pour cela, nous l'a dit Bertrand, il faut lui laisser accès à tous les autres, à toute notre vie, toutes. Par exemple, quand je conduis sur la route, ben vous avez vu que nous, on est les champions du monde là-dessus. On a quand même l'attention qui fait des bons, jamais aussi rapidement de notre vie que quand on conduit. On devient des, en France, quoi, alors peut-être pas tout le monde, mais on devient en France. On a l'impression qu'on atteint notre honneur. Par exemple, tous les aspects de notre vie, notre travail, notre ordinateur, comme le disait Bertrand, ce que je regarde, ce que je fais, ce que je dis, mes critiques, ma bouche, Jacques en parle, ce que j'aime, ce que je laisse entrer dans mon cœur, ce que je ne laisse pas entrer dans mon cœur. Tout cela, l'esprit doit pouvoir l'atteindre. L'apôtre nous dit dans Romains 12, offrez vos corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai tendance à avoir l'œil qui regarde, par exemple, des dames, et pas de la bonne manière, il faut que je l'offre au Seigneur. Si mon ventre est quelque chose qui me dirige dans ma vie, il faut que je l'offre au Seigneur. Si j'ai du mal à agir, à faire, parce que je préfère rester dans mon lit, ou je préfère, regarder la télé, etc. Mais il faut que je les offre au Seigneur. Mon cerveau, je l'offre au Seigneur. Ma bouche, mes oreilles, je les offre au Seigneur. L'ensemble de mon corps, je l'offre au Seigneur. C'est quelque chose d'actif. Et cet esprit pourra travailler et travailler chacune de ces parties-là. Et puis la dernière, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'aime bien ce verset. En Proverbe 27, verset 17, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme séduise le contact de son prochain. Moi, je vais vous donner un défi. Quand dans votre église ou dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous casse les pieds, au lieu de le fuir, allez en son contact. Vous allez gagner des années de vie spirituelle. Pas dans le sens de devenir un compteur. Dans le sens où vous allez progresser hyper vite, ça va développer votre patience, votre amour, votre bonté, ça va développer des tas de choses en vous. Comme le fer aiguise le fer. Proverbe 17. Autant les deux actions, là, elles prennent du temps, l'eau et le vent. Autant l'action de l'humain, elle est souvent brutale et on la vit comme ça. C'est pour ça que j'ai illustré ça avec ça. La parole de Dieu. Prenez du temps, on vous le dit tout le temps. Prenez du temps pour la lire. Prenez du temps. Mais que ça devienne une passion, pas une obligation. Une passion. Pensez à notre Dieu, ce grand créateur, celui qui connaît chaque étoile, Celui qui vous a créé avant de créer chacune de ces étoiles. Celui qui vous a créé avant de donner un nom à chacune, qui a pensé à vous, pardon, avant de donner un nom à chacune de ces étoiles. Pensez à ce grand Dieu qui est devenu un homme pour chacun d'entre nous, qui s'est chargé de toutes nos cochonneries, de tout ce qui lui faisait le plus horreur, lui, le Dieu très saint. Celui qui a été séparé de son Père pendant 3 heures, par amour pour toi, par amour pour moi. Pense à cela quand tu veux. Et tu verras que découvrir tout cela dans sa parole, chercher dans sa parole des choses qui nous parlent de sa grandeur, qui nous parlent de choses, de joie, qui nous parlent de délices, qui nous parlent de passion, qui nous parlent d'aimer, qui nous parlent de ressentir. Recherchez cela dans sa parole. Et la lecture de la parole prendra une toute autre couleur. Il y a une question. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parce que Dieu, il a dit ce qu'il voulait. On l'a vu. Dieu nous a créés adorateurs. Tout homme adore. C'est comme ça. Tout homme adore. Dieu nous a créés adorateurs. Et donc on est toujours passionné par quelque chose. Ou plusieurs choses. Mais Dieu nous a créés pour nous glorifier. Tous les hommes, pas que ceux qui sont convertis. Hein. Il a créé chaque homme pour le glorifier. Donc quand je vois, quand on parle du prochain, c'est pas que mon frère ou ma soeur. Quand tu aimeras ton prochain, c'est... Dieu veut être l'objet de ta passion. Et pour ça, il est nécessaire de le contempler, pour le décider, de prendre du temps. Prenez du temps. Mais prenez, et c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça, prenez du temps. Et je dis ça parce que je couvre un peu de temps. Mais trouvez un moyen pour prendre du temps à le contempler. Moi, par exemple, j'aime bien faire, on s'en fiche de ma vie, mais c'est juste pour illustrer. Mais par exemple, j'aime bien courir. Donc quand je cours, c'est là où je me dans ma tête pendant une heure, je m'évade et je contemple mon Dieu. Mais je suis, des fois même, c'est un peu ridicule, je danse sur la route. Je ne pourrais pas me croiser à ce moment-là. C'est au début quand je cours, parce qu'à la fin, j'arrive plus à danser. Mais ça, c'est une façon de faire. Ça, c'est une façon de faire. Il y en a plein d'autres, vous en avez tous. Mais prenez du temps pour ça. Prenez du temps pour ça. Prenez. Vraiment. Ça changera vos vies perso. Et ça changera aussi l'Église. Ça changera l'Église. Ça parlera autour de vous. Ça parlera autour de vous. Parce que vous savez ce que le Seigneur a dit dans sa dernière prière, dans Jean 7, soyez un, comme moi je suis un, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Comment le monde va le connaître si on n'est pas un? Et pour être un, il faut être reflété Christ. Pour être un dans le couple. Pour être un dans nos familles, pour être un dans nos communautés, pour être un dans notre, partout où on est, pour être un. Alors ce un, dans ce passage, peut se comprendre de deux façons. Un avec Dieu, en nous, et un entre nous. Je terminerai juste par ce verset. C'est de lui, par lui, et pour lui, et pour lui, que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles.